Radio Prague, les informations. Bonjour, le gouvernement a approuvé le projet de réforme des retraites et de la privatisation du système. Des activistes de Greenpeace ont protesté au siège du gouvernement contre la poursuite de l'extraction du charbon en Bohême du Nord. Et puis enfin, Benjamin Netanyahou est à Prague, c'est jeudi et vendredi. C'est la première visite d'un chef de gouvernement israélien depuis la création d'Israël. Le gouvernement a approuvé ce mercredi le projet de réforme des retraites présenté par le ministre du Travail et des Affaires Sociales. Ce projet prévoit notamment la création de fonds de pension privés à partir de 2013, date prévue de l'entrée en vigueur de la nouvelle législation. Les gens devraient ainsi pouvoir transférer une partie de l'argent du système public actuel sur ces fonds privés. Ils auront également la possibilité de cotiser 3% du montant de leur cotisation sociale sur des plans d'épargne retraite. Pour financer cette réforme, la coalition gouvernementale prévoit notamment la suppression à partir de l'automne prochain du taux de TVA réduit à 10% pour le faire passer à 14% en 2012, puis à 17,5% en 2013. Les lois relatives à la réforme devraient être soumises à la Chambre des députés puis au Sénat dans le courant du second semestre de cette année. Des activistes de l'ONG Greenpeace sont pénétrés mercredi matin à Prague dans le jardin qui entoure le siège du gouvernement. Ils ont protesté contre l'intention du ministre de l'Industrie et du Commerce de repousser les limites d'extraction de lignite en Bohême du Nord. Dès 2015, établie au début des années 1990, et ces limites protègent plusieurs communes de la région menacées de disparition par l'extraction du charbon. La poursuite de celle-ci a été encouragée la semaine dernière par le Premier ministre. Petr Nečas a indiqué que les limites pourraient être repoussées à condition que les sociétés minières se mettent d'accord avec les propriétaires des terrains. L'année dernière, les activistes de Greenpeace s'étaient déjà installés sur le toit du siège du gouvernement, toujours pour protester contre l'extraction du charbon en Bohême du Nord. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou effectue une visite à Prague ces jeudi et vendredi. Il s'agit du premier séjour officiel d'un Premier ministre israélien en République tchèque depuis la création d'Israël en mai 1948. Au cours de sa visite, Benjamin Netanyahou rencontrera notamment son homologue Petr Nečas, avec lequel il abordera la situation actuelle en Afrique du Nord ainsi que le processus de paix au Proche-Orient. Benjamin Netanyahou sera également reçu vendredi par le président de la République, Václav Klaus. Pour le ministre des Affaires étrangères, Karel Schwarzenberg, il s'agit là d'une occasion, je cite, unique et d'une visite historique. Des mesures de sécurité exceptionnelles seront prises dans la capitale tchèque à cette occasion. On passe à la culture. Ouverture ce mercredi à la galerie Rudolfinum d'une exposition dédiée à l'artiste Adriana Chimotova, qui fête cette année ses 85 ans. Figure importante de l'art plastique tchèque de la seconde moitié du XXe siècle, Adriana Chimotova est connue et reconnue notamment pour ses travaux sur papier, des sculptures en papier inspirées du corps humain. Alors que la galerie Rudolfinum présente jusqu'au 19 juin ses travaux créés au cours des trois dernières années, une autre exposition pragoise consacrée à Adriana Chimotova, celle au musée Kampa, regroupe jusqu'au 25 avril ses œuvres des années 1970 et 1980. Rappelons que francophone, Adriana Chimotova a exposé à plusieurs reprises en France. En 1991, elle a obtenu l'ordre de chevalier des arts et des lettres de la République française. On passe au sport. Les deux premiers matchs de la série de la finale des play-offs de l'Extraliga, le championnat tchèque de hockey sur glace, ont été disputés lundi et mardi sur la glace de Třinec. Ces deux premiers matchs ont été remportés par Třinec aux dépens de Vítkovice 5-2 et 2-0. On termine avec un mot de météo. Le soleil prédominera sur la majeure partie du territoire ce jeudi, jour non seulement de la fête des Hergemann et Hermina, mais aussi journée de la culture selon le calendrier local. Les températures sont quelque peu supérieures aux normales saisonnières et varient entre 18 et 25 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Qu'a le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Tout de suite, retrouvez Anna Kubista. Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous et merci à Guillaume Narguet pour ce bulletin d'information. Une nouvelle affaire jette une ombre sur le gouvernement et menace de le déstabiliser. Vous en saurez plus en tout début d'émission. Qu'est-ce que l'architecture durable ? En quoi celle-ci peut-elle améliorer notre quotidien ? C'est autant de questions auxquelles l'architecte française Françoise-Hélène Jourda, pionnière en la matière, est venue répondre lors d'une conférence donnée mardi à Prague. Et puis après, on passera à la rubrique traditionnelle du mercredi, soit la rubrique histoire. Merci de votre fidélité et bonne écoute de ce programme. Dans son édition de lundi, l'hebdomadaire Respect révélait que le parti Affaires Publiques, la plus petite des trois formations de la coalition gouvernementale, était géré de manière pour le moins bizarre. Vit Bartha, fondateur de ce parti et actuel ministre des Transports, a été accusé par le vice-président du parti de lui donner de l'argent pour s'assurer de sa loyauté. L'affaire menace de déstabiliser le gouvernement. Alexis Rosenzweig.
Le parti Affaires Publiques n'est vieux que de quelques mois, mais a déjà quelques belles affaires à son actif. Le député Jaroslav Skarka était jusqu'à présent le vice-président de cette formation. Il faisait partie des proches de ses deux ministres, Radek Jón et Vít Bárta, et portait, comme eux, des chemises bleues à col blanc. Aujourd'hui, Skarka est toujours député, mais il ne porte plus de chemise bicolore et a été viré du parti et de son groupe parlementaire parce que Respect l'a cité en train d'expliquer qu'il recevait du cash de la part de Vít Bárta pour sa loyauté et pour sa discrétion sur la gestion financière du parti. Le chef d'affaires publiques, Radek Jón, a convoqué mardi une conférence de presse extraordinaire pour annoncer officiellement la décision de se séparer de Jaroslav Skarka. On l'écoute.
Le conseil d'affaires publiques a décidé d'exclure Jaroslav Skarka du parti en raison du non-respect du code d'éthique et de l'atteinte portée à notre image. Dans le même temps, notre groupe parlementaire a décidé de suspendre son adhésion. La réunion du groupe a ensuite été interrompue et reprendra comme prévu jeudi et vendredi.
Jaroslav Skarka, après s'être rétracté, a finalement annoncé qu'il allait apporter mercredi en fin d'après-midi la preuve que Vít Bárta lui a donné plusieurs dizaines de milliers de couronnes en liquide. Il a également affirmé qu'il était suivi et surveillé. La société de surveillance fondée par Vít Bárta, ABL, a déjà été par le passé soupçonnée d'avoir espionné les faits et gestes de politiciens. L'épreuve est difficile pour ce parti qui avait fait de la lutte contre la corruption une des priorités d'un programme souvent décrit comme très populiste. Cette affaire pourrait avoir des conséquences au niveau gouvernemental. Des sources proches du Premier ministre, citées notamment par le quotidien Lidové Noviny, indiquent que s'il s'avère que Vít Bárta est réellement mouillé dans cette affaire, le parti ODS fera pression pour qu'il quitte le gouvernement et soit remplacé au ministère des Transports par des membres moins controversés d'affaires publiques. Pour l'opposition, tant communiste que social-démocrate, cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Vít Bárta doit quitter le gouvernement. Le chef du parti social-démocrate, Bohuslav Sobotka, a ajouté que le CSSD pourrait envisager de déposer une motion de défiance contre le gouvernement à cause de cette affaire.
C'est mardi et mercredi, Prague accueillait le forum Arcos, consacré à l'architecture durable, une notion qui, il y a encore quelques années, faisait pour le moins sourire en France, alors que des pays comme l'Allemagne ou l'Autriche l'appliquent depuis des dizaines d'années. Françoise-Hélène Jourda est une des rares architectes françaises à avoir très tôt pensé le bâtiment en termes de développement durable et elle est venue partager son savoir en République tchèque où 20 ans après la révolution de velours, ce type de problématique commence seulement à être évoqué. Mais qu'est-ce qu'exactement que l'architecture durable? C'est ce que Françoise-Hélène Jourda nous a expliqué avant sa conférence de mardi.
Face à ces deux enjeux, d'une part d'émissions de gaz à effet de serre et d'autre part de réduction des ressources disponibles pour les générations futures, eh bien nous, les architectes et le monde de la construction en général, on est vraiment interrogés parce que c'est ce monde-là, le monde du bâtiment, le monde de l'infrastructure, consomme environ 40% des ressources et produit environ 40% des gaz à effet de serre. Donc s'il y a un endroit où il faut agir, c'est bien effectivement le bâtiment et la construction pour faire en sorte, mais c'est là le but du développement durable, mais faire en sorte que les générations futures puissent se développer, elles aussi comme nous on l'a fait, de manière durable, c'est-à-dire sans être face à des problèmes de manque ou des problèmes de survie, qu'elles aussi elles puissent répondre à leurs besoins.
Est-ce que c'est pas un peu un paradoxe de parler d'architecture durable? Parce que moi, quand j'entends le mot architecture, alors évidemment, je pense aux cathédrales, à tous ces bâtiments qui ont survécu au siècle. Pour moi, l'architecture est durable par définition.
Alors d'abord, elle n'est pas toujours durable, au sens où on l'entend, puisqu'il n'y a que quelques bâtiments finalement qui restent ensuite dans l'histoire et qui restent construits, qu'on peut encore visiter et habiter. La plupart des bâtiments sont des bâtiments qui sont ensuite démolis. Bien souvent, autrefois, ils étaient recyclés. Mais quand on parle de durable, c'est une très mauvaise définition en fait du mot sustainable en anglais, parce que les bâtiments éphémères sont bien souvent les plus durables au sens de sustainability. Construire et ensuite pouvoir recycler son bâtiment, le démonter et le transformer en autre chose, eh bien c'est souvent une très bonne solution. Malheureusement, c'est quelque chose qui va contre beaucoup l'ego des architectes, des politiques, des constructeurs qui voudraient absolument que leur bâtiment traverse les siècles et laisser ainsi leur trace sur la planète pour les siècles à venir. Moi, je pense que la plupart du temps, et même, je dirais, presque à 100%, il faudrait construire des bâtiments qui puissent disparaître pour qu'on puisse en construire d'autres, qui soient mieux adaptés aux besoins des générations futures, aux besoins qu'on ne connaît pas aujourd'hui.
Au niveau du coût de ce type de bâtiment, on parlait d'économie d'énergie, est-ce qu'au niveau du coût, ça ne demande pas plus d'investissement financier, par exemple pour les personnes qui veulent se faire, par exemple, construire leur propre maison sur ce type de principe?
Bien sûr, ça coûte un petit peu plus cher. Si on compare une maison qui n'est pas isolée, avec construite en bloc de béton, et puis une maison en bois construite avec 30 cm d'isolant, ça coûte forcément plus cher. Mais ça coûte de moins en moins cher, parce que tout le monde s'y met. Il y a des produits industriels, des produits de construction, des matériaux qui sont développés à grande échelle, qui font que, du coup, ils sont beaucoup moins chers à mettre en œuvre. Mais il ne faut pas non plus se mentir, la qualité a toujours coûté plus cher que la cochonnerie. Voilà. Donc, ça coûte un petit peu plus cher, mais c'est rentabilisé extrêmement vite.
Est-ce que vous pensez qu'ici, il y a des potentialités en République tchèque, justement, de développer? Est-ce que vous avez des collègues, par exemple, architectes ici que vous avez pu rencontrer lors de vos nombreux voyages? Et est-ce que vous savez un petit peu ce qu'il en est ici, dans le pays?
Alors, je ne sais pas tellement, je ne connais pas très bien la situation. Bien sûr, la situation tchèque, je la connais un petit peu, parce qu'enseigner en Autriche, c'est quand même un pays qui est très proche culturellement. Mais bon, les quelques architectes français qui ont construit ici n'ont pas du tout construit dans cette idée-là, clairement, comme si construire de manière avec un langage contemporain n'était pas compatible avec une écriture architecturale environnementale. Voilà, je trouve ça stupide, mais il y a de très mauvaises habitudes qui ont été prises, particulièrement en France, bien sûr. Mais moi, je pense que de toute façon, on n'a pas le choix. Si on n'y va pas maintenant, eh bien, c'est du retard qu'on prend et on le payera encore plus cher.
Voilà, c'est la fin des faits et événements du jour. Tout de suite, on passe à la deuxième partie de notre émission récurrente en Autriche et en Allemagne. Les polémiques autour de la centrale nucléaire de Temelin ont été relancées ces derniers jours. Retour aujourd'hui sur l'histoire d'une centrale controversée avec Dana Drabova, directrice de l'Agence tchèque pour la sécurité nucléaire. Une rubrique histoire proposée aujourd'hui par David Allon.
Chapitre de l'histoire. Doit-on vraiment considérer la centrale de Temelin comme appartenant à l'ère du bloc soviétique? Si sa conception et sa construction se situent dans les années 1980, elle n'entrera en marche qu'en 2002-2003. Au contraire, l'autre centrale nucléaire tchèque, Dukovany, fut mise en service dès 1985. Équipée à l'origine de 4 réacteurs, Temelin voit sa capacité réduite à 2 réacteurs après la chute du communisme. Dana Drabova, directrice de l'Agence tchèque pour la sécurité nucléaire, en évoque le contexte.
Cette décision a été prise en 1990. À l'origine, la localité de Temelin avait été prévue pour 4 réacteurs. Mais comme il n'y avait pas assez de moyens pour un investissement si important et aussi pour d'autres raisons, il a été finalement décidé qu'on ne construirait que 2 réacteurs. Ils fonctionnent toujours. Aujourd'hui, on pense à relancer les plans et à finir la reconstruction de 2 autres réacteurs.
Comme le reste de l'industrie, la production d'énergie nucléaire obéissait à une planification rigoureuse et arbitraire sous le régime communiste. Le plan initial de 4 réacteurs à Temelin dès la fin des années 1970 déformait-il les besoins réels en énergie nucléaire? Autrement dit, y avait-il risque de gâchis énergétique?
Také to bylo z finančních důvodů, ale bylo to i z důvodu toho, že se předpokládalo, že...
La réduction des capacités de Temelin en 1990 obéissait aussi à des contraintes financières. Mais la raison principale, c'est qu'on pensait que la demande en électricité, gardons à l'esprit que la Tchécoslovaquie était un pays très industrialisé sous les régimes précédents, ne serait pas si grande et qu'elle n'augmenterait pas autant qu'on ne l'avait initialement supposé. Cette hypothèse, en fait, ne s'est pas confirmée avec le temps. Sous le régime communiste, la centrale de Temelin n'avait été que construite, mais n'était pas encore entrée en marche. En revanche, il y avait 4 réacteurs en fonctionnement, dont l'autre centrale, à Dukovany. En 1990, s'est posée la question, doit-on activer 1 ou 2 réacteurs, ou bien carrément ne pas mettre la centrale en fonctionnement? À l'époque, en tout cas, la capacité de 4 réacteurs n'était pas nécessaire face à la demande.
On pourrait aussi penser que cet excédent d'énergie nucléaire aurait été utilisé par l'URSS pour sa propre consommation, une sorte de pillage dissimulé. Sous l'ère soviétique, un savant système de relations bilatérales entre Moscou et chacune des autres démocraties populaires donnait l'avantage économique aux grands frères. Et pourtant, les échanges du nucléaire tchèque ne furent jamais tournés vers l'Est.
Ce genre de flux vers l'Est ne fut jamais réalisé, mais si l'on parle de l'exportation aujourd'hui, on parle plutôt d'un système d'échanges bilatéraux tchécoslovaques. Ceci dit, nous exportons aussi vers l'Allemagne et en partie vers l'Autriche. Ce sont là des flux qui existaient déjà par le passé, mais il n'y avait aucun mouvement de distribution du nucléaire vers l'Est.
L'Allemagne et l'Autriche ont donc acheté du nucléaire tchèque, mais depuis la mise en marche de la centrale de Temelin en 2002, c'est surtout de ces pays que provient la polémique. Rappelons que l'Autriche est dénucléarisée depuis 1978. Or, la centrale de Temelin se trouve à environ 50 km de la frontière autrichienne. En cause des incidents récurrents, et en particulier des fuites d'eau faiblement radioactives en 2004 et en 2006 par exemple. C'est surtout la deuxième tranche de la centrale qui est concernée. Pour Dana Drabova, le niveau technologique était très élevé dans l'ancien bloc soviétique et les centrales nucléaires tchèques étaient déjà proches des standards occidentaux avant même la chute du communisme. Mais comment expliquer alors que des adaptations aient dû y être effectuées dans les années 1990 ?
C'était plutôt de l'ordre des évaluations afin que nous montrions et informions le monde sur l'état et sur les paramètres de sécurité de nos réacteurs nucléaires. Bien sûr, il était également question d'amélioration et de modernisation, mais ce genre de procédure concerne toutes les centrales nucléaires dans le monde et sont généralement faites pour un fonctionnement sur le long terme, 30, 40, voire aujourd'hui 60 ans.
Pour Dana Drabova, si les incidents qui se sont produits à Temelin n'ont pas eu de conséquences, c'est parce que le niveau de contrôle et de sécurité y reste solide.
My máme v zákoně povinnost pro toho, kdo provozuje jadernou elektrárnu, aby ten vývoj...
Nous avons l'obligation de par la loi de suivre l'évolution de nos centrales et d'appliquer tout ce qui pourrait contribuer à améliorer la sécurité. Cette question était surtout d'actualité dans les années 90, alors que de nouveaux systèmes de sécurité et d'ajustement étaient mis en place. Cela représentait l'un des points faibles du projet. Depuis, ces systèmes ont été bien modernisés. Nos centrales disposent de systèmes de contrôle numérique qui sont à un très bon niveau. La pression internationale et les exigences de nivellement sont naturelles. Si vous voulez faire fonctionner une centrale nucléaire en toute confiance et sécurité, vous devez constamment l'améliorer.
La centrale de Temelin n'a pas fini de soulever les controverses. mais le débat ne doit pas faire oublier une réputation méconnue de la République tchèque en matière nucléaire. Selon des études, la centrale de Dukovany serait parmi les mieux gérées et les mieux surveillées dans le monde.
C'est avec cette rubrique historique que s'achève cette émission, une émission qui a été présentée pour vous aujourd'hui par Anna Kubishta. Tous nos sujets sont à retrouver évidemment en streaming, en podcast, mais également en texte retranscrit sur notre site internet que vous consultez évidemment, le www.radio.cz/fr. Merci de votre fidélité.